Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 3. Pour l'étude de la parole de Dieu ce matin, selon plusieurs, c'est un des passages les plus importants dans toute la Bible. Le prédicateur anglais d'Angleterre, Martin Lloyd-Jones, dit que c'est le plus grand passage de toute la Bible. C'est le plus grand passage, le plus merveilleux passage de toute la Bible. Martin Luther dit que seulement les églises véritables croient dans le message qu'on va voir ce matin de l'apôtre Paul dans la justification par la foi seulement. Et je suis content, Marlène, dans ton témoignage, ma sœur bien-aimée, que tu as justement parlé de justification par la foi, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans la bonne parole de Dieu pour nous. Avant de lire le passage, vous remarquez sans doute au verset 21 les deux premiers mots qui sont des mots d'une grande importance. Quelqu'un qui a dit que les « mais » dans la Bible sont extrêmement importants. Le « mais Dieu » d'Éphésiens 2 au verset 4 est primordial. Si Paul peut décrire la vie de péché des Éphésiens, « autrefois vous étiez morts par vos offenses », vous viviez selon le prince de la puissance de l'air, selon les convoitises de votre chair. En Éphésiens 2, verset 4, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Les « mais » dans la Bible sont importants. Et le « mais » maintenant qu'on voit dans Romains chapitre 3, au verset 21, est un « mais » primordial, car il fait le pont entre la section précédente, qui a débuté, on l'a déjà vu, chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20. L'homme est perdu, c'est ce qu'on voit depuis les dernières semaines, les derniers mois. L'homme est perdu, l'homme n'est pas juste, l'homme est injuste. Si tu vis assez longtemps sur la terre, tu es d'accord avec moi que ce monde est rempli d'injustice. Les gens sont injustes, les hommes et les femmes sont injustes. Je suis injuste. Je manque à la justice de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On est tous sous la colère de Dieu. On est tous condamnés à cause de notre péché, l'humanité entière, juif ou non juif. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton sexe, homme ou femme, juif ou non juif, on est tous pécheurs. Et l'argument que l'apôtre Paul présente au début de sa lettre aux Romains, il débute avec l'argument à la négative. Il commence avec la mauvaise nouvelle, mais merci Seigneur pour la bonne nouvelle qui commence aujourd'hui dans Romains 3, verset 21. Mais maintenant, il y a un mais. Lisons ensemble Romains 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Le « mais maintenant » nous montre ici le pivot dans l'histoire de l'humanité. Si l'humanité est perdue à cause de son péché, Jésus vient racheter les pécheurs perdus afin de leur donner la vie. Ici, c'est la bonne nouvelle, c'est l'argument positif. On va voir trois choses ce matin dans ce merveilleux passage. D'abord, on va voir comment Dieu manifeste sa justice sans la loi, au verset 21. On va voir comment Dieu manifeste sa justice par la foi en Jésus-Christ, au verset 22. Et on va voir dans les versets 24 et 25 comment Dieu manifeste sa justice par la grâce, le cadeau de Dieu dans les versets 24 et 25. Donc, sans la loi, par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. D'abord, sans la loi, au verset 21, c'est un rappel ici de ce que Paul avait déjà mentionné dans la section précédente. L'homme n'est pas justifié par la loi, c'est-à-dire par l'obéissance aux commandements. Les commandements de Dieu, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, les 600 et quelques commandements, ne peuvent nous sauver. Personne n'est capable de suivre toute la loi. Et Jacques nous dit, « Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Le standard de Dieu, c'est la perfection. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Qui d'entre nous pourrait dire qu'il atteint le standard de Dieu? Dieu ne peut pas, dans sa justice et dans sa sainteté, tolérer le péché. Nous sommes donc pris avec un problème. Et certains pensent, malheureusement, et certains croient que s'ils font le bien, s'ils obéissent aux commandements, bien que Dieu va prendre ça en considération et les accepter au ciel. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu au verset 20, vous êtes en Romains 3, regardez juste le verset précédent, au verset 20. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi n'a pas le rôle de nous justifier devant lui, mais plutôt la loi a la responsabilité d'agir comme un miroir. La loi nous montre, la parole de Dieu nous montre que nous sommes pécheurs. La loi montre l'état de mon cœur. Et quand je lis la parole de Dieu, plus je lis la parole de Dieu, plus je trouve la laideur de mon péché, plus je découvre le péché dans ma vie. La loi ne sauve pas. Au contraire, elle nous montre notre péché. Et regardez le verset qui précède, une fois de plus, au verset 19. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » L'objectif de la loi, c'est de montrer qu'on est tous coupables devant lui. La bouche fermée, on ne pourra pas se justifier devant Dieu. Je ne pourrais pas arriver et dire, « Bien, c'est vrai que j'ai péché, mais j'ai fait assez de bonnes choses pour compenser. » Non, le but de la loi, c'est de montrer qu'au bout du compte, en fin de compte, on est tous coupables devant lui, condamnés. Et Paul le rappelle au verset 23, vous êtes dans Romains 3, verset 23, il répète cette idée, « Car tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un rappel de la section précédente où il avait cité dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, dans les versets 10 à 18, il avait démontré l'état du péché de l'homme. La loi, les versets dans les psaumes, dans l'Ecclésiaste, dans les proverbes, tout ce qui a été cité dans l'Ésaïe, toutes ces citations qu'il fait dans la section 10 à 18 Dans ta Bible, peut-être que tu vois que c'est comme dans une citation, hein, il y a une petite tabulation, ça rentre à l'intérieur. Tu vois que c'est un paquet de citations de l'Ancien Testament, mais toutes ces citations sont pour montrer qu'on est tous pécheurs. On est pécheurs de la tête aux pieds. Au verset 11, c'est ton cerveau, c'est ton intelligence qui est obscurcie. Dans le verset 18, c'est tes yeux. Dans le verset 13 et 14, c'est les péchés de la langue et de la bouche, les lèvres. Au verset 15, c'est les pieds. De la tête aux pieds, on est pécheur. On est totalement perdu et dépravé sans Jésus. Et ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Non, on a déjà fait la démonstration, chapitre 2, on a déjà fait la démonstration que la loi ne peut pas sauver. La loi, ce n'est pas son rôle. Au contraire, elle nous montre les lois, la loi, les prophètes, donc ça veut dire l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament nous montre notre état de péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Comment Dieu manifeste donc sa justice? Qu'est-ce que Paul veut dire ici par la justice? Ce terme est souvent mentionné et répété dans le passage. Si vous avez votre Bible, vous remarquez au verset 21, au verset 22, au verset 24, au verset 25, trois fois au verset 26, une fois au verset 28 et au verset 30, ce terme justice, juste ou justification, justifiant, justifié, justifiera revient dans ce passage. Qu'est-ce que Paul peut bien vouloir dire par la justice dont Marlène nous a parlé il y a quelques instants? La justice ici, ce n'est pas le palais de justice, comme on entend dans notre vocabulaire. Si on a une contravention et qu'on ose la contester, ben, on doit se présenter, hein? On doit être capable de se défendre devant le palais de justice. Mais ici, on parle du palais de justice, des palais de justice, la Cour suprême des cours suprêmes, la Cour suprême de Dieu. C'est ce que Martin Luther posait comme question. Comment je peux être déclaré juste devant Dieu? Martin Luther, c'était un moine catholique qui avait tout essayé par lui-même. Plus il se sacrifiait, plus il était intense dans son désir de suivre les commandements, plus il se rendait compte de sa perdition, de son incapacité. Et il se pose la question, en fin de compte, comment je peux être déclaré juste devant Dieu? Quelle est cette idée de justice ou d'être déclaré juste devant Dieu? Un de mes professeurs de Sembec, René Labbé, lorsqu'il avait enseigné ce merveilleux cours de Romains dans la cohorte de Sembec, avait dit ceci au sujet de la justification ou de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'acte légal de Dieu par lequel le pécheur est déclaré juste sur la base de l'œuvre de Christ qui a accompli toutes les justes exigences de la loi. La justice de Christ est placée au compte du croyant et ainsi le justifie aux yeux de Dieu. Le pécheur se trouve alors en Jésus dans une position parfaite devant Dieu. Ce que c'est en train de dire, autrement dit, c'est que notre justification nous est imputée. La justice que nous recevons, elle est extérieure à nous. Nous la recevons en Jésus-Christ. Nous étions dans les dettes. Si les trois premiers chapitres, si Paul a voulu faire une chose, c'est de montrer notre dette spirituelle, notre état de pécheur, notre état de faillite spirituelle. Mais si on est justifié ici, si on peut parler de justice devant Dieu, c'est non seulement que nous étions endettés, mais que maintenant, notre compte est à zéro. Jésus a tout payé pour nous. Il a tout payé. C'est un acte légal, on dirait fiduciaire. Quand Jésus va sur ton compte à toi et enlève la dette de tes péchés. Le Seigneur Jésus, oui, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais regarde au verset 22. Ils reçoivent la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et au verset 26, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu qui s'obtient non par la loi, mais deuxièmement, elle s'obtient par la foi. Il n'y a aucun acte que nous pouvons faire. Même la foi ici n'est pas une œuvre que nous faisons. La foi, c'est la main d'un mendiant. Le mendiant qui fait appel à la miséricorde, à la compassion. Il ne fait rien, il ne mérite rien. Le mendiant ne fait rien autre que de lever les mains et de plaider. Notre œuvre n'est pas celle de croire. Même la foi que nous avons, c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux afin que nous puissions le recevoir. Quelle merveille du salut! Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par la loi de l'Ancien Testament, certains diraient par la loi de la conscience, la connaissance du bien et du mal, de faire le bien et le mal. Même ceux qui parlent de loi de la conscience ici, la conscience nous montre aussi, on se sent mal quand on fait le mal si on ne fait pas taire sa conscience. La foi ici est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous pourrions accomplir en nous-mêmes. Paul avait déjà mis la table ici concernant la foi. Rappelez-vous Romains 1, versets 16 et 17, un verset qu'on devait mémoriser, que Paul avait dit d'emblée, je pense que c'est les versets qui résument bien toute son épître aux Romains. Paul dit, « J'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, hein, pour tous, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » La foi, bien-aimée, n'est pas cet élément mystique ou mystérieux. Comme les gens aiment dire, toi, t'es une personne de foi, comme si c'était nébuleux. Non, non, regardez ici la foi n'est aussi bonne que son objet, l'objet de notre foi. Et quel est l'objet de notre foi? Nous croyons en quoi? En qui plutôt? Nous croyons en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une foi intellectuelle où nous savons des choses au sujet de Jésus. Ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas une foi temporelle ou circonstancielle. Quand ça va mal, bien là, je vais faire appel à Dieu. Non, non, c'est plus que ça. La vraie foi, c'est une foi au moment de notre salut, mais c'est une foi qui continue jour après jour, heure après heure, minute après minute dans notre vie. La foi, c'est de faire confiance en Christ seulement. Et vous voyez ici, c'est pour ça que c'est si important pour Martin Luther, ce passage-là, en particulier un chrétien qui a vécu avant nous et qui a écrit sur ce sujet. C'est parce que non seulement que nous avons dans ce passage le sola fide par la foi seulement, mais nous avons aussi le solus Christus, c'est-à-dire que la foi est en Christ seulement. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé aujourd'hui. Si tu es venu ici aujourd'hui, reçois le message. Si c'est ta première fois ou si c'est ta dernière fois, reçois le message qu'un chrétien, c'est celui qui place sa confiance, sa foi, qui croit en Jésus-Christ seulement pour être justifié devant Dieu. Seulement Jésus peut nous sauver. Jésus l'avait dit lui-même que c'était la clé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque obéisse au commandement ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est ça que ça dit? Afin que quiconque croit en lui. Le salut s'obtient par la foi, pas parce que j'obéis au commandement. L'obéissance au commandement vient suite à ma foi en Jésus-Christ seulement pour obtenir le salut. Et c'est ce qui est triste, ce qui est malheureux de l'Église catholique romaine. Il fait partie de notre histoire. On avait des Américains ici qui soutiennent François Turcotte, qui sont venus en visite à une église de la Floride. Et lorsqu'ils nous ont donné un petit coup de main ici, ils ont appris sur le Québec. On a passé du temps, on leur a donné de la poutine, la roulotte, c'était bon. Ils sont partis pour aller où? Ils sont allés voir l'oratoire Saint-Joseph pour comprendre, mieux comprendre notre histoire. Et notre histoire ici au Québec, c'est qu'il y avait une église qui enseignait un faux message. Que d'être sauvé, c'était pas seulement, c'est pas suffisant de croire en Jésus-Christ, mais aussi il faut acheter des indulgences. Il faut aussi monter à genoux, hein, les marches. Il faut se rendre en haut avec ça. Il faut payer avec, en achetant notre lampion. Il faut faire brûler, il faut payer une messe pour qu'il aille plus vite dans l'au-delà. Des œuvres qu'on a ajoutées au salut. Bien-aimé, Martin Luther, un moine catholique, est venu à la conclusion que la justification, elle est étrangère. C'est littéralement, elle est extraterrestre. Elle ne vient pas de nous. Rien de ce que nous pouvons faire va plaire à Dieu. Rien, rien ne peut me sauver. Rien que le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce qui rend son œuvre si merveilleuse. C'est ce qui rend son œuvre si merveilleuse. Lui, le parfait, meurt pour nous, des pécheurs. Il est extérieur à nous, mais il a vécu parmi nous. Il est 100% homme. Il peut 100% comprendre la vie que tu vis. On m'a parlé d'une personne en deuil dans une autre assemblée cette semaine. Et avec tristesse, j'avais de l'empathie pour cette personne. Mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est que Jésus comprend ce que c'est d'être en deuil. Jésus comprend la perte. Jésus comprend la vie que tu vis. Ne pense pas qu'il ne comprend pas. Il a vécu ici assez longtemps. Il avait une famille. Il a certainement vu des conflits dans sa famille sans avoir contribué par lui-même. Bien sûr, il n'a pas péché. Certainement, les autres devaient être jaloux de lui. Il ne se faisait jamais donner des conséquences. Peut-être des conséquences injustes qu'il a subies dans sa vie, on ne sait pas. Dans son enfance, dans sa vie avec sa famille. Mais Jésus a vécu 100% la vie comme toi et moi. Il comprend ce que c'est. Il comprend ta vie. Et en pensant à cette personne-là, je me disais, Seigneur, tu as compassion. Tu comprends Jésus. Jésus est la source de notre salut. Il est venu vivre ici-bas sur terre. Il est l'objet de notre foi, de notre espérance. Ce n'est pas Jésus plus quelque chose d'autre. Ce n'est pas Jésus plus ta religion. Ce n'est pas Jésus plus le fait que tu es venu au 4902 Saint-Charles ce matin. Pas parce que tu es allé à la réunion de prière, c'est pas parce que tu as des traditions, parce que tu as une moralité, c'est pas ça qui va te sauver. Au dernier jour, au dernier jour, lorsqu'on va me poser la question, pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel? Je vais dire, c'est certainement pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. J'aurais rien fait pour mériter cela. Si j'entre au ciel un jour, ce sera à cause de lui. Parce que son sang était versé pour moi. Sa vie a été offerte à ma place. Il a obéi à la loi à ma place. J'ai aucun mérite. Regarde au verset 27 à 31. Regarde au verset 27 à 31 dans cette section qui suit. Paul débute cette section en parlant du fait qu'on ne peut pas se glorifier. L'homme n'a pas de, il n'a pas de raison de se glorifier. Je ne suis pas meilleur que personne d'autre. C'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par la loi. C'est par la foi. C'est par la grâce de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Et cela fait qu'on ne peut pas se glorifier. Combien nous sommes orgueilleux, combien je suis orgueilleux de penser que je fais quoi que ce soit qui a de la valeur. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est la grâce. La gloire de sa grâce manifestée en son Fils Jésus-Christ. Parce que regarde au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La première fois que Paul fait ça, rappelle-toi un autre classique. Tantôt, on a récité Jean 3,16, mais rappelle-toi Éphésiens 2, 8 et 9. C'est encore la même affaire, hein? C'est cohérent. C'est le verset à mémoriser cette semaine. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes venus à l'Église. Cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Grâce égale don. Si on était en mathématiques, si j'étais au tableau, je dirais grâce égale don égale gratuit. C'est la même chose, c'est le même sens du don ici, du cadeau. Il nous est donné de la part de Dieu. Et comme dans Éphésiens 2,8, la même affaire. Paul va le dire et va le dire deux fois. Il n'y a pas besoin de dire. C'est de la redondance. C'est presque un pléonasme. Pas besoin de dire ça. La grâce est déjà un cadeau. Mais dans Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est le don de Dieu. Mais ici, dans Romains chapitre 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce, bien sûr, c'est gratuit. Parce que la grâce égale cadeau égale don. Incroyable. Ce n'est pas un salaire. Si tu es sauvé, frère et sœur, ce n'est pas un salaire. C'est la grâce de Dieu. On oublie ça. On avance dans nos années de vie chrétienne, puis on a besoin de se faire rappeler que c'est par la grâce de Dieu. J'étais sauvé par grâce, je suis gracié, je ne mérite rien. Tout ce que j'ai, c'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu. Certains croient, ben Dieu paye le repas. C'est ça qu'il paye, le repas avec sa mort à la croix. Puis nous, qu'est-ce qu'on paye? C'est le pourboire. On ajoute juste un peu, c'est juste le pourboire, hein? Maintenant, c'est 18 %, c'est pas comme avant, mais hein, 20 %, c'est cher, ça va vite. Nous, on donne le 20 %. Seigneur, on fait le 80, nous autres, on donne le 20. C'est absolument faux. Jésus paye tout. Le repas, il paye l'entrée, il paye les breuvages, il paye le dessert, il paye le pourboire. Jésus a tout payé. Oui, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Le mot rédemption veut dire rachat. Il nous a rachetés. Par son sang, verset 25. C'est son sang qui est versé. C'est ça le prix. C'est ça que ça coûte. Puis ce que j'ai dit tantôt, c'est pas vrai, puis j'ai fait exprès pour dire ça. C'est pas vrai que mon compte est remis à zéro, c'est bien mieux que ça. J'étais endetté de millions, si on veut, au niveau de mon péché. Jésus, à la croix, il rachète, il paie la dette de mes péchés, mais il fait mieux encore. Il fait mieux encore que prendre mes péchés. Je ne suis pas à zéro. J'ai passé de moins million à plus million parce que je reçois du Seigneur Jésus sa justice imputée, placée sur mon compte. Quand Dieu le Père me regarde, il ne voit pas Nicolas Cotemort. Il voit la vie d'obéissance du Seigneur Jésus qui a été vécu à ma place. Wow! Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Son obéissance a été parfaite et complète. Il a pris tous mes péchés, il a tout payé ma dette, mais plus encore, il a rempli ma banque. Il m'a donné mieux que ce que je pourrais jamais imaginer. La vie éternelle. Éphésiens 1, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Aujourd'hui, assis dans les lieux célestes, au 4902 Saint-Charles. Je ne suis pas dans les lieux célestes. Non, mais c'est le déjà, pas encore. Ce n'est pas complet, mais aujourd'hui, je suis en communion avec le Dieu de l'univers. Mes péchés sont pardonnés. J'ai reçu sa justice. Je suis victorieux en Jésus. Je connais la fin. Tu te rappelles du bon vieux chant? « Tel que je suis, avec toutes mes bonnes œuvres. » Hein, c'est ça qu'il dit le bon vieux chant? « Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. » Peux-tu dire ça aujourd'hui avec moi, cher ami? Je ne voudrais pas prendre pour acquis que tu es ici aujourd'hui et que tu peux dire cela dans ton cœur. Jésus a pris tes péchés. Il est mort pour toi. Charlotte a posé une bonne question tantôt. J'ai aimé ta question. Comment la mort d'un homme peut justifier tant d'hommes et de femmes? C'est une bonne question, Charlot. As-tu déjà pensé à ça? Comment la vie d'un seul peut justifier tous ceux qui croient en lui? Par la foi. Comment Jésus peut payer la dette de tous les pécheurs? Comment il peut racheter ou faire la rédemption des pécheurs? Comment il peut faire ça si c'est un seul homme? Bien, c'est simple. C'est qu'il vaut plus que tous les hommes réunis ensemble. Les dieux. Il est couronné de gloire. La Bible nous dit qu'il est assis dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de Dieu. Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds. Tout mis sous ses pieds. Il est le plus grand des plus grands, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, tu l'as abaissé pour un peu de temps. Oui, il est devenu comme nous. Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce, oh la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Connais-tu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Il est le Dieu éternel, le Dieu de gloire. Il est venu, il a quitté son trône. Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux en manger, tout ce que tu peux sentir, tout ce que tu peux vivre, toute expérience, le Dieu qui a tout créé, le Dieu de l'univers, d'aller sur une croix pour des pécheurs comme vous et moi, pour nous donner la vie. Il vaut plus que nous tous. Il nous aime. Il dit, moi, je vais prendre leur place. Je vais me donner pour eux. Je vais les racheter par mon sang précieux. Je vais les justifier. Pas par la loi, non. Par la foi. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça aujourd'hui, frères et sœurs? Tu pars d'ici aujourd'hui, tu fais quoi avec ça? So what? La question. Et premièrement, donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Reçois le pardon de tes péchés. Par la foi, par la grâce. Le temps ne va pas t'aider. Le mensonge de l'ennemi, c'est « attends, demain ». C'est le mensonge. Attends pas. Aujourd'hui, now. Do it now. 2 Corinthiens 6. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Attends pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça? Parle de Jésus. Parlons de Jésus. Invitons les gens à connaître le Jésus de la Bible, le vrai Jésus qui a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié. Il a pris notre place. Troisièmement, adore Jésus. Merci Édouard. Merci toute l'équipe ce matin. Nous voulons voir Jésus. Adore Jésus. Tous les jours de la semaine. Pas juste le dimanche matin. Chante chez toi, même si tu chantes faux. Chante dans ton auto, monte-les vite. Chante le plus que tu peux. Chante à Jésus. Adore-le. Qui est digne de ces choses? Qui est digne d'être pardonné? Chante à Jésus. Loue-le. Mets de la louange dans la maison. Remercie le Seigneur pour son sang précieux qui était versé pour toi. Le Dieu de l'univers qui a versé son sang pour toi. Quatrièmement, dernièrement, qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça? Repentons-nous. Repentons-nous de notre orgueil. Verset 27. Touchez brièvement, mais on y reviendra la prochaine fois. L'évangile de Jésus est le remède à l'orgueil. Quelle gloire y a-t-il? Pourquoi nos petites glorioles? Pourquoi on veut toujours avoir raison? La gloire ne nous appartient pas. La gloire lui appartient à lui. Donnons-lui la gloire. Humilions-nous devant Dieu. Et agissons avec révérence dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes.